carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Deveau.
C'était un extrait de la fantaisie impromptue numéro 6 en do dièse mineur pour piano de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin dont nous fêtons en cette année 2010 le bicentenaire de sa naissance le 1er mars. Alors pour fêter cet événement, Canal Academy a décidé de vous présenter le compositeur, non à travers les grands penseurs, musiciens ou autres, qui ont fait couler de l'encre sur le personnage. Nous avons voulu au contraire vous le présenter à travers ses écrits. Car qui de mieux que Frédéric Chopin lui-même pour décrire sa vie, son œuvre, ses amours, sa maladie? Tout cela, nous allons vous le présenter au cours de cette émission. Cette émission qui s'articuleront autour de son enfance, sa famille avec qui il a vécu en Pologne jusqu'en 1830, son ascension à Paris où il passera la majeure partie de sa vie, sa relation tumultueuse avec George Sand qui durera pratiquement 10 ans, et les dernières années de sa vie entre sa composition et sa maladie. Pour nous accompagner dans cet hommage à l'un des plus grands compositeurs de la période romantique, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio Jean-Pierre Grivois, Jean-Pierre Grivois lui-même mélomane, qui dans l'un de ses derniers livres « Moi, JSB » a brossé la vie de Jean-Sébastien Bach avec cette même envie de remettre à sa juste valeur le compositeur en entrant dans la peau du personnage. Jean-Pierre Grivois, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour rendre hommage à Frédéric Chopin. Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce virtuose du piano après Bach? Puisqu'il ne s'agit pas du tout de la même époque, l'un est issu de la période baroque, l'autre de celle romantique, deux univers bien différents.
Écoutez, c'est un peu la même démarche intellectuelle, dans la mesure où Bach est une légende vivante, et dans mon livre, j'ai essayé de gratter un peu et de voir quel était le vrai personnage. De même, Chopin, on en a dit un tas de choses, il y a eu des partisans dans tous les domaines, artistiques et autres, et j'ai voulu retrouver de la même façon qui était le vrai Chopin. Et la seule méthode que j'ai trouvée, alors que pour Bach on n'a pratiquement pas de correspondance, là on a une correspondance de Chopin extrêmement abondante, et j'avoue que je me suis régalé à la lire, et je voulais en faire part aux auditeurs de Canal Académie.
Donc vous allez nous présenter les lettres de Chopin.
Exactement.
Alors dans cette première mission, nous allons étudier les lettres écrites par Frédéric Chopin pendant son enfance jusqu'à son installation à Paris en 1831. Avant que l'on ne s'y attarde, j'aimerais tout de même rappeler quelques indications indispensables à nos auditeurs sur Frédéric Chopin. Il est né le 10 mars 1810 à Zelazowa-Wola dans le duché de Varsovie, actuelle Pologne, et est mort le 17 octobre 1849 à Paris à l'âge de 39 ans, donc très jeune. C'est l'un des plus grands compositeurs de musique romantique du 19e siècle. Il est notamment connu pour sa virtuosité au piano, puisqu'il n'a pratiquement composé que pour cet instrument, toujours en quête de retranscrire le chant italien au piano et violoncelle. Il est également connu pour être l'un des pères de la technique pianistique moderne avec Liszt. On lui doit ce grand phrasé de notes infinies qui a influencé nombre de compositeurs, Fauré, Ravel, Debussy, Rachmaninov ou encore Scriabine. Donc revenons sur son enfance, ses 20 années passées en Pologne auprès de sa famille. Jean-Pierre Grivois, comment était Chopin à l'époque? Avait-il déjà cette virtuosité dont on lui connaît d'après ses écrits?
Bien, au risque de vous décevoir, il n'y a pas d'éléments très frappants dans sa famille. Il n'a pas perdu son père ou sa mère, il n'y a pas de drame dans sa famille. Il est issu d'un père français émigré en Pologne, qui est devenu plus polonais que les Polonais, et qui s'est débrouillé pour aller au service de grandes familles nobles dont il était le précepteur. Détail assez amusant, avant de servir la famille Starbeck, il a servi la famille Walewska et il a eu comme élève, et pour la former, une certaine Marie Walewska, qui, comme vous le savez, deviendra la maîtresse de Napoléon. C'est assez amusant de se dire que le père de Chopin a donc élevé Marie Walewska. Et puis, ce monsieur devient le précepteur d'une autre famille de nobles, et les Starbeck, donc, et il trouve à ce moment-là un grand succès auprès des nobles, et il fréquente beaucoup les familles nobles de Varsovie en tant que professeur de français, en tant que formateur de jeunes nobles, et il ouvre une pension de famille dans laquelle beaucoup de fils de nobles vont venir, fils de nobles qui deviendront de grands amis de Frédéric Chopin. Frédéric, qui est le second enfant de Nicolas Chopin, le père, et la mère, qui s'appelle Justine. Je ne vous dirai pas comment son nom de famille, parce que ça commence par un W et je m'y perdrai.
Les noms polonais sont très compliqués.
À moins d'être natif de là-bas, je crois que c'est difficile d'arriver à prononcer les mots. Donc, il a une sœur aînée, qui s'appelle Louise, et il a deux sœurs cadettes, qui s'appellent Isabelle et Émilie. Et alors, tout ce monde-là vit dans un bonheur parfait. C'est une famille exemplaire. Et le petit Chopin va donc commencer à écouter de la musique, puisque sa mère joue du piano, son père joue de la flûte. Dès 3 ans, on dit qu'il ne peut plus quitter le dessous du piano, et il écoute indéfiniment de la musique. Et puis, peu à peu, on va découvrir des dons tout à fait exceptionnels.
Quelle est la première lettre que vous avez choisie pour débuter cette émission ?
La première lettre que j'ai choisie, c'est une lettre que Chopin écrit à son père le 6 décembre 1818, il a donc 8 ans. À l'occasion de son anniversaire. Alors je vous la lis. « Bien qu'il me serait plus facile de te faire part de mes sentiments s'il était possible de les exprimer par des sons de la musique, mais comme le plus beau des concertos n'arriverait pas à te faire part, mon cher papa, de toute l'affection que j'ai pour toi, je dois employer les simples mots qui sortent de mon cœur pour te dire que je dépose à tes pieds l'hommage de ma tendresse reconnaissante et de mon attachement filial. »
Alors on sent qu'à la lecture de cette lettre, que Chopin avait une profonde affection pour ses parents.
Oui, puis ce qui est extraordinaire, c'est surtout que dès 8 ans, il dit « Je sens que je vais mieux m'exprimer en musique qu'en paroles. Je te fête ton anniversaire, mais j'aurais aimé le faire en musique, mais il faut bien que je le fasse par des mots. »
Alors, dès ses premières années, Chopin montra de grandes dispositions à la musique de par sa sensibilité et son sens musical. Il commença l'étude de la musique dès l'âge de 6 ans et composa sa première œuvre, la Polonaise en sol mineur, en 1817 à l'âge de 7 ans. Polonaise que nous allons d'ailleurs tout de suite écouter.
Thank you.
à l'écoute de cette polonaise en sol mineur, on ressent déjà ce ton musical si cher à Frédéric Chopin, vous ne trouvez pas ?
Si, absolument. Enfin, c'est quand même, vous l'avez entendu, c'est quand même une musique encore pas tout à fait évoluée, parce qu'à 8 ans, c'était pas possible. Mais on sent déjà tout ce qui va venir chez Chopin, toute cette originalité, en particulier ses traits déliés, le fait de tenir compte de chaque note dans chaque trait. Tout ça me paraît déjà inscrit dans cette petite œuvrette du début.
Alors à partir de quand il donne son premier concert ?
Il donne des concerts ben, très vite, parce que c'est même tout à fait comme Mozart. Il est demandé par tous les nobles. Il joue même devant la mère du tsar et le frère du tsar. Le frère du tsar qui est un affreux gouverneur de la Pologne, du moins d'après les Polonais. Et il est demandé par toute la noblesse locale.
Vers quel âge ? Vers 7-8 ans ?
À partir de 7-8 ans, oui.
Alors donc, il devient la coqueluche des nobles. Il joue même, vous le disiez, pour le frère du tsar, le grand-duc Constantin. Et parallèlement, il étudie au conservatoire et au lycée de Varsovie, où son père y enseigne le français. C'est d'ailleurs à cette période qu'il découvre la musique populaire polonaise, puisqu'il passe de nombreuses vacances avec sa famille dans différentes régions rurales de Pologne. Il débordait d'humour à cette époque d'ailleurs, je crois que vous avez retrouvé une de ses lettres, où il se moque de lui-même à la troisième personne.
Oui, absolument, mais quand vous dites qu'il se moquait de lui-même à cette époque et des autres, ça a toujours été, même dans les dernières années de sa vie, dans les grands salons, il continuait à faire tordre les gens de rire par les imitations qu'il pouvait faire. Donc ça a toujours été, là encore, c'est un côté de la légende qui disparaît, le triste poète romantique. Non, il y avait chez Chopin une dimension de joie de vivre et de drôlerie qui est tout à fait extraordinaire. Alors là, ce que je vais vous lire, pendant qu'il était en vacances, donc chez des parents d'un des élèves de la pension de M. Chopin, il s'est amusé à faire une gazette sur le même ton que les gazettes pour adultes. Et il a appelé ça le courrier de Svarsavia, qui est l'endroit où il était en vacances. Alors je vous le lis. Nouvelle de l'intérieur. Le 11 août de cette année, M. Frédéric Chopin, monté sur un bon cheval, a participé à des courses et tenté d'arriver au but. Bien qu'il ait été battu à plusieurs reprises par Madame D, qui était à pied, ce n'est pas la faute de M. Chopin, mais celle du cheval, il a néanmoins remporté la victoire sur Mademoiselle Louise, Louise c'est sa sœur, au moment où celle-ci allait à pied atteindre le poteau. M. Chopin sort chaque jour en voiture avec de tels honneurs qu'il est toujours assis à l'arrière. Le Sieur Jacques Chopin, là c'est un surnom qui se donne, boit chaque jour 6 tasses de café de gland. Et le petit Nicolas parce que son père s'appelle Nicolas, c'est un autre nom qu'il se donne, le petit Nicolas mange 4 petits pains, nota bene, en plus d'un dîner formidable et d'un souper de 3 plats. Le 13 des mêmes mois et années, M. Bétard s'est fait entendre au piano avec un talent extraordinaire. Ce virtuose berlinois, à la manière du Sieur Berger, dans les traits et pour la vélocité, il surpasse Madame L et joue avec tant de sentiment que toutes les notes semblent sortir non de son cœur, mais de son énorme ventre. Le 15 des mêmes mois et années. Une nouvelle importante nous est parvenue. Une dinde ayant couvé par hasard dans un recoin du grenier, un jeune dindon y est venu au monde. Ce grand événement ne contribue pas seulement à l'accroissement de la famille de ses volatiles, mais aussi à celui des revenus fiscaux, et il assurera leur développement ultérieur. Hier, pendant la nuit, le chat s'étant faufilé dans sa garde-robe, a cassé une bouteille de sirop. Si d'une part il mérite d'être pendu, de l'autre il a le droit à des félicitations pour avoir choisi la plus petite. Le 12 des mêmes mois et années, la poule s'est mise à boiter, le canard a perdu une patte au cours d'un duel avec l'oie. La vache est tombée si gravement malade qu'elle va paître dans le jardin. Après les nouvelles de l'intérieur, les nouvelles de l'étranger. Un certain citoyen des environs, voulant lire le Moniteur, envoya son domestique demander un journal périodique au père des Carmes d'Orbori. Le domestique, n'ayant jamais entendu parler d'un journal périodique, demanda au père un journal hémorroïdique. À Bochniec, un renard a dévoré 2 innocentes oies, que celui qui s'en emparera en informe le tribunal de Bochniec. Ce dernier punira impitoyablement le criminel selon les lois et prescriptions, et le porteur du renard recevra les 2 oies comme digne récompense. Donc voilà, il y a plusieurs exemplaires de ce courrier, et c'est sans arrêt comme ça, c'est vraiment très amusant. Encore un aspect de Chopin qui est totalement imprévu.
Donc beaucoup d'humour durant son adolescence, même après. Mais Chopin était également complexé par son nez, il fait une caricature de lui-même tout à fait surprenante.
Oui, alors là, il y a une lettre à un de ses amis qui s'appelle Kohlberg, et dans laquelle il dit « De mon côté, il m'est agréable de pouvoir te dire que je m'amuse bien. Il n'y a pas que toi qui ailles à cheval. Moi aussi, je sais monter. Ne me demande pas comment, mais je sais, du moins de la manière suivante. Le cheval marche lentement où il veut, et moi, tel un singe sur un ours, je reste en place plein d'effroi. Je ne suis pas encore tombé parce que ma monture ne l'a pas encore voulu, mais je tomberai le jour où ça lui plaira. Je ne vais pas t'accabler davantage de mes affaires personnelles, cela ne servirait à rien. Les mouches se posent continuellement sur mon nez proéminent, mais cela n'a rien de neuf, ces insupportables bestioles en ont l'habitude. Les moustiques me tourmentent, mais qu'importe, ils ne s'attaquent pas au nez.
On a également souvent parlé de sa santé fragile. Qu'en est-il réellement ?
Écoutez, il est certain que ce n'était pas une force de la nature, le petit Chopin. Il était un peu maigrichon, il était un peu pâlo, mais enfin, il n'y avait pas de quoi alarmer particulièrement sa famille. Mais vous avez vu que dans son journal, il prend soin de dire qu'il a beaucoup mangé et qu'il prend beaucoup de repas, sûrement pour rassurer ses parents à qui ce petit journal est dédié. Et alors, quelques temps après, il est envoyé en cure avec sa sœur Émilie. Sa sœur Émilie qui a quelques troubles pulmonaires. Et il est envoyé en cure du côté de la frontière tchèque. Et il le décrit d'une manière tout à fait amusante.
Ben, dites-la nous alors.
Alors, c'est une lettre qui est écrite à son ami Guillaume Kolberg. Et la ville thermale s'appelle Reinertz et la date est le 18 août 1826, donc notre Chopin a 16 ans. Mon cher Guillaume, depuis 2 semaines, je bois du petit lait et les eaux du pays. J'ai, paraît-il, un peu meilleure mine, je grossirais même, ce qui devrait me rendre paresseux. Tu attribues sans doute le long repos de ma plume à cette circonstance. Mais crois-moi, lorsque je t'aurai appris comment je vis ici, tu reconnaîtras toi-même qu'il me serait bien difficile de trouver un instant pour rester à la maison. Le matin, au plus tard à 6 heures, tous les malades se réunissent autour de la source. Un orchestre d'instruments à vent formé par quelques caricatures en tout genre et dirigé par un joueur de basson dont le nez crochu et sali de tabac effraie les dames qui se gardent des chevaux, ce mauvais orchestre joue tandis que les hôtes se promènent lentement. Cette promenade se fait dans une charmante allée reliant le centre à la ville. Elle dure plus ou moins selon le nombre de verres qu'il faut absorber et en général se prolonge jusqu'à 8 heures du matin. Après, chacun rentre chez soi pour déjeuner. Le plus souvent, je me promène ensuite. Je marche jusqu'à midi, moment où l'on dîne pour se rendre immédiatement après à la source. Après midi, plus grande mascarade encore que le matin, car chacun s'est paré et se montre dans un autre costume. De nouveau, la musique sévit et l'on se promène jusqu'au soir. Comme je ne bois que 2 verres d'eau pendant l'après-midi, je rentre alors aussitôt pour la collation, bientôt après je me couche. Quand donc pourrais-je écrire ? Voilà comment je passe mes jours. Le temps va si vite qu'en dépit pourtant d'un séjour assez long, je n'ai pas encore tout vu. Ce « je n'ai pas encore tout vu », c'est quelque chose qu'on verra sans arrêt, en particulier quand Chopin commencera à voyager. Il est toujours très curieux de tout voir. N'importe quelle ville, il veut toujours tout voir et tout apprendre.
Il fait une description très détaillée.
Absolument, il fait une description très...
Même de sa cure.
Exactement.
Est-ce qu'au niveau de son caractère, cette fragilité au niveau de sa santé l'a affecté ?
Oui, bien sûr. D'abord, il veut faire plaisir à ses parents en leur disant qu'il est tout le temps en bonne santé. Mais ça se manifeste par une sorte d'hypersensibilité vis-à-vis de tous ses correspondants, en particulier ses amis d'enfance. Je vais vous donner un exemple de lettre qu'il écrit à un de ses amis qui s'appelle Jean. Cette lettre est écrite 3 semaines avant la mort de sa sœur Émilie, qui va mourir à 14 ans alors que Julie en a 17. Varsovie, le lundi 14 mars 1827. Mon cher Jeannot, es-tu encore en vie ou bien as-tu cessé de l'être ? Mon Dieu, il y a déjà plus de 3 mois que tu ne m'as pas écrit un mot. Ma digne fête est passée sans que tu m'adresses une ligne. Tout cela semblait confirmer ce qu'en pleurant on racontait à propos de toi à Varsovie. Et sais-tu ce qu'on disait ? On prétendait que tu étais mort. Déjà nous avions pleuré tout notre sou en vain et Jean avait écrit ton panégyrique pour le courrier. Lorsque soudain éclata cette nouvelle, il vit. Comme les choses agréables trouvent plus facilement que les autres le chemin de notre cœur, ce dernier écho nous a paru le plus vraisemblable. Alors, après avoir séché mes paupières gonflées par les larmes, je saisis ma plume pour te demander si tu vis ou si tu es mort. Si tu es mort, fais-le-moi savoir et je le ferai savoir à la cuisinière. Depuis qu'elle avait appris la première nouvelle, elle récitait sans cesse des oraisons. La flèche de Cupidon est douée vraiment d'un grand pouvoir. Bien que notre Josepha soit une vieille grosse dondon, tu as fait, lors de ton séjour à Varsovie, sa conquête au point qu'elle répétait sans cesse quel beau jeune seigneur c'était, plus joli que tous les jeunes seigneurs qui viennent ici. Personne n'est aussi joli. Mon Dieu, comme un jour il a mangé toute la choucroute du pot pour me faire une farce. Ha ha ha, magnifique éloge funèbre. Mais laissons là. Passons à autre chose. La maladie règne chez nous. Depuis 4 semaines, Émilie est couchée. Elle s'est mise à tousser, à cracher le sang, et maman s'en est effrayée. Le docteur Malaise a ordonné une saignée. On en a fait une, puis une seconde. On lui a posé d'innombrables sangsues, des vésicatoires, des synapismes. Que d'aventures, que d'aventures. Durant tout ce temps, elle n'a rien changé, elle n'a rien mangé, et elle a maigri si fort qu'elle était devenue méconnaissable. Elle commence seulement maintenant à redevenir un peu elle-même. Tu peux te représenter ce que nous avons tous souffert. Et 3 semaines après cette lettre, la pauvre Émilie, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mourait à 14 ans.
Est-ce que cette part tragique donc, de sa sœur a-t-elle joué sur sa composition ?
Moi, personnellement, je n'en ai pas décelé des traces particulières, mais pendant toute la vie de Chopin, il y a des grands musicologues qui vous racontent effectivement qu'il y a une grande influence. Mais vous savez, c'est un éternel problème de savoir en quoi les événements personnels qui arrivent aux artistes peuvent influencer sur leurs œuvres. Ça serait le sujet de 5 ou 6 autres émissions et c'est pas le lieu ici.
Alors, il aimait beaucoup jouer le Don Juan de Mozart. Est-ce que, à votre avis, cette œuvre a eu un grand succès ?
Il faut voir que le petit Mozart a été essentiellement nourri à la musique par un vieux professeur qui était tout à fait démodé, qui avait connu la période Beethoven et qui ne jurait que par Bach, Haydn et Mozart. Et effectivement, Chopin a été nourri de Mozart. D'ailleurs, il avait pour Mozart un culte tout particulier. Vous savez qu'il admirait, comme nous tous, particulièrement Bach, Beethoven et Mozart.
Et puisqu'il a étudié beaucoup Bach et Mozart durant son enfance.
Oui, absolument, avec ce vieux professeur, justement. Mmh. Et alors, justement, il a écrit. Et alors là, c'est une chose tout à fait intéressante et assez peu connue. Au début de sa carrière, il a écrit plusieurs œuvres pour orchestre. Et en particulier, une œuvre sur un thème du Don Juan de Mozart que vous allez reconnaître en l'écoutant.
Nous allons donc tout de suite écouter un extrait de la variation opus numéro 2 sur un air du Don Juan de Mozart. Contrairement à Mozart ou à Schubert, Frédéric Chopin n'a pas un très grand catalogue musical de jeunesse. Il a très peu composé à cette époque. Ce sont vraiment vers les dernières années polonaises qu'il commence à composer. car avant, il ne se considérait pas réellement comme un compositeur. Il préférait se consacrer à sa famille et ses amis. Et c'est ce que vous allez tout de suite nous dire avec la prochaine lettre, n'est-ce pas ?
Oui, il aime beaucoup écrire à ses amis. Il fait preuve vis-à-vis de ses amis d'une grande sensibilité. Je voudrais vous citer quelques passages, en particulier à son ami Titus, qui a écrit par ailleurs qu'il était un peu gêné de cet excès de tendresse. « Tu ne peux savoir quelle soif j'avais de recevoir de tes nouvelles. Mon bien-aimé Titus, je t'embrasse encore une fois, je t'embrasse. Tu n'aimes pas qu'on t'embrasse, permets-le-moi aujourd'hui à l'occasion du nouvel an 1829, je te baise sur la bouche si tu permets. » C'est un besoin d'affection extraordinaire, c'est certain, c'est une hypersensibilité d'un jeune artiste. On peut aussi dire que c'est un épanchement slave. Certains critiques un peu hâtifs ont pu dire qu'il y avait d'autres choses sous-jacentes. Alors c'est là justement que je ne veux pas du tout prendre parti. Et que d'autre part, il fait preuve de beaucoup de sensibilité dans ses œuvres, mais... Il parle aussi très souvent dans ses lettres, mais il parle aussi très souvent de ses œuvres, non seulement de ses œuvres pour orchestre comme ce Don Juan de Mozart que nous venons d'entendre et dont, entre parenthèses, Robert Schumann a dit « Chapeau bas, messieurs, voilà un génie » en l'écoutant. Donc, il parle très souvent de ses œuvres, non seulement ses œuvres pour orchestre qui datent de cette époque-là pour la plupart, mais déjà de ses œuvres pour piano, et en particulier des œuvres qui sont des polonaises et des mazurkas dont les rythmes et les thèmes s'inspirent du folklore polonais. Rappelons, parce que je crois que c'est intéressant de bien se le rappeler, rappelons les noms que Chopin donne et donnera le plus souvent à ses œuvres pour piano, qui sont très brèves en général, quelques minutes. Celles dont les noms sont des danses d'abord. Je viens de dire les mazurkas, les polonaises, mais aussi des valses, les fameuses valses de Chopin. Et puis d'autres comme les études, les impromptus, les nocturnes, les préludes, des ballades, non, qui se suffisent à eux-mêmes et qui expriment déjà à travers leur titre quelque chose de tout à fait spécifique. Je voudrais dire au passage aussi que l'œuvre de Chopin, particulièrement brève, si on prend les œuvres de personnages comme Bach, comme Beethoven, comme Mozart, ça se compte en 250-300 heures de musique ininterrompue. Pour Chopin, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il a composé 18 heures de musique en tout.
18 heures.
Ce qui est extrêmement bref pour l'œuvre d'un musicien.
Donc il compose beaucoup entre 1828 et 1829. On peut citer par exemple l'étude numéro 8 en Fa majeur pour piano, dont la principale difficulté est de garder à la fois un caractère léger et dansant à la main gauche et une clarté et précision à la main droite. On écoute tout de suite un extrait. Chopin se rend compte peu à peu que Varsovie n'est pas le centre du monde musical et son père l'encourage même à voyager.
Ben oui, pour ce jeune homme qui n'a jamais quitté sa petite famille, qui était couconné par son père, par sa mère, ben il va aller sur les routes, il va aller tout seul. La première fois, c'est pour aller à un congrès scientifique avec deux amis professeurs de son père à Berlin. Et il dit de Berlin, alors il adore décrire les lieux dans lesquels il est. Donc à Berlin... Il dit « Voici mon impression sur Berlin, elle est démesurée, une population double y tiendrait à l'aise. » Et puis ailleurs, et ça dans toutes les lettres on le retrouve, « Je ne fais rien d'autre que d'aller au théâtre. » Il aime bien décrire aussi les sensations qu'il a éprouvées en allant au théâtre, il écrit les œuvres de tous les musiciens qu'il entend, et il porte des jugements très précis sur les différentes chanteuses qu'il rencontre, avec toujours une pointe d'humour. « Mademoiselle Sontag n'est pas belle, mais elle est charmante au plus haut point. » Elle ensorcelle tout le monde par sa voix. Celle-ci n'est pas très étendue, jusqu'à présent, c'est pas très gentil. Hein. mais elle est extrêmement travaillée. Ses diminuendo, son nec plus ultra, ses portamento jolis et ses gammes chromatiques excellentes, etc., etc. Et dans une autre lettre, il note « J'ai vu Spontini, Zelter et Mendelssohn, mais je n'ai parlé à aucun d'eux car je n'ai pas osé me présenter moi-même. » Vous voyez que c'est encore le petit jeune qui est là, qui n'ose pas se présenter, alors que Mendelssohn, quelques années plus tard, va devenir un de ses grands amis. Et alors, il décrit dans une lettre les différentes étapes de ce premier voyage. Je suis allé à Cracovie, à Vienne, à Prague, à Dresde et à Wrocław.
Alors c'est à cette même époque que Chopin connaît ses premiers émois. Il était, comme on le sait, passionné d'opéra, d'opéra italien plus exactement, et tombait très souvent amoureux des cantatrices. Il y a d'ailleurs une cantatrice qui semble l'avoir marqué plus que d'autres.
Oui, il semblerait aussi que ses succès féminins soient aussi beaucoup dans l'autre sens, c'est-à-dire que tout le monde, tous les gens qui l'entourent, les femmes, les chanteuses, ses élèves, etc., tombe amoureuse de lui. Mais il y en a une dont il tombe éperdument amoureux et son prénom est Constance. Voici ce qu'il en dit en parlant d'elle, de ce qu'il appelle son idéal. « Ne crois pas que je désire revoir Mademoiselle B, la jeune fille jolie qui joue si bien, car peut-être, pour mon malheur, j'ai déjà rencontré mon idéal que je sers fidèlement sans lui parler de mes sentiments. » J'en rêve, sous son inspiration est né l'adagio de mon concerto.
Donc il lui a consacré cet adagio, on va peut-être en écouter un court extrait. Que dit-il encore de Constance, dites-moi.
Alors voilà, il en parle tout le temps à mots couverts, d'une manière très touchante. Dans l'extrait suivant, il parle d'une certaine mademoiselle Moriol qui lui a raconté les détails d'un mariage auquel elle est allée. Il dit « Je connais ce détail grâce à mademoiselle Moriol à qui je dois aller rendre visite après avoir mis cette lettre à la poste. Ce sont là mes amours avoués, car il faut être obéissant. » Et respecter le manteau des sentiments cachés. Frappé d'un regard inespéré à l'église, juste au moment où j'étais la proie d'un adorable engourdissement, je fus troublé au point que je ne saurais dire ce qui m'est arrivé dans le quart d'heure qui suivit. Voilà le niveau d'amour pour Constance qu'avait Chopin. Il est ici amoureux d'elle, qui parle d'elle par périphrase et n'ose même pas écrire son nom. Par exemple, il écrit C-O-N-S-T, mais avec des petits points. Et on verra tout à l'heure qu'il lui suffit de voir des mouchoirs brodés avec un C comme Constance pour en être ému. Et il semble, comme je le disais tout à l'heure, que beaucoup de jeunes filles, en particulier ses élèves et des chanteuses d'opéra, soient tombées amoureuses de Chopin. Quant à ce qui le concerne lui, voilà la phrase la plus osée que j'ai trouvée dans ses lettres et qui concerne une jeune élève de 17 ans. Voilà ce qu'il en dit. « C'est jeune, ça a 17 ans, joli, et par Dieu, c'était bien agréable de lui poser les doigts sur le clavier. » Voilà ce que je peux vous dire de ce qu'on trouve des amours de Chopin dans ses lettres, à cette époque-là.
Il présentait pas vraiment, il n'exposait pas réellement ses émotions.
Non, mais vous trouverez alors là toute une littérature sur les grands amours de Chopin à cette époque-là, mais à mon avis, c'est des choses un petit peu hypothétiques.
Revenons à Vienne pour ses voyages. Il donne des concerts. Comment décrit-il l'un de ses chers amis tels que Titus ?
On a un récit très amusant, je vais vous le lire, parce que ce récit résume très bien l'attitude que Chopin a quand il doit donner un grand concert en public. Il préfère beaucoup donner des petits concerts en petits comités. Et là, il arrive à Vienne, et voilà ce qui se passe. « Vienne m'étourdit, m'enivra, me divertit tellement que malgré l'absence de nouvelles des miens, j'y ai passé sans souffrir de nostalgie plus de 2 semaines. Figure-toi qu'en ce peu de temps, on m'a fait jouer 2 fois en public au Théâtre Impérial. Voici comment les choses arrivèrent. Haslinger, mon éditeur, me fit remarquer qu'afin d'assurer le succès de mes compositions, il serait souhaitable que je me produisisse. « Mon nom, me dit-il, est inconnu. Mes œuvres difficiles à exécuter et de peu d'aspect extérieur. Pourtant, je ne pensais nullement accepter. D'ailleurs, comme je n'avais plus joué depuis plusieurs semaines, je refusais, alléguant n'être pas en état de paraître devant un public aussi choisi. Nous allions rester là quand survint le comte de Gallenberg, celui qui a composé ces 6 beaux ballets et dirige le théâtre. » Haslinger me présente à lui comme un poltron craignant de jouer en public. Alors le comte est assez aimable pour me proposer de jouer à son théâtre et moi, si sûr de mes moyens, que je décline l'offre. Le lendemain, on frappe à ma porte. Entre Würfel. Würfel, c'était un de ses professeurs à Varsovie qui l'avait accompagné à Vienne. Il me conjure de jouer. Je ferai, me déclare-t-il, honte à mes parents et à Elsner, son professeur d'harmonie, honte aussi à moi-même en refusant de jouer à Vienne quand l'occasion s'en présentait. Tous sur m'étourdir si bien que j'acceptais. Würfel entama aussitôt toutes les démarches nécessaires et dès le lendemain, les affiches étaient posées. Dès lors, impossible de se rétracter, je ne savais même pas ce que j'allais jouer ni comment. L'orchestre me fit grise mine à la répétition, sans doute, parce qu'à peine arrivé à Vienne, j'allais, sans qu'on sache pourquoi, jouer mes propres compositions. Je fis commencer la répétition par les variations qui te sont dédiées, et le rondo à la Cracoviaque, rondo à la Cracoviaque, Cracoviaque, ça veut dire c'est une danse originaire de Cracovie, devait précéder le jour du concert. Cela n'alla pas mal, mais je dus faire reprendre plusieurs fois le début du rondo. L'orchestre pataugeait et se plaignait de la mauvaise écriture des partitions. La confusion provenait des pauses indiquées de façon différente en haut et en bas, bien qu'il ait été convenu qu'il fallait tenir compte uniquement de celle du haut. C'est en partie de ma faute, mais j'espérais avoir été compris. Pareil désordre, mis cette fois les musiciens en colère. Or, ce sont tous des virtuoses et des compositeurs. Finalement, ils firent tant d'erreurs qu'en songeant à la soirée, je me sentais prêt de tomber malade. Le baron de Mar, régisseur du théâtre, me proposa de remplacer le rondo par une improvisation. Quand de Mar dit cela, l'orchestre de faire les yeux ronds. Et moi, j'étais si irrité qu'en désespoir de cause, j'acceptais. Et qui sait si cette humeur malheureuse et le risque à courir ne me tinrent pas lieu d'aiguillon pour me faire mieux jouer le soir. La vue du public viennois ne m'effraya pas du tout. Il n'est pas d'usage là-bas que l'orchestre occupe la scène, il reste à sa place habituelle, devant un merveilleux instrument, le meilleur sans doute qui fut sorti du facteur de piano Graf. Je m'installai tout pâle, à côté d'un préposé tout rouge, pour me tourner les pages. Il se vantait de les avoir tournées pour Moscheles, Hummel et bien d'autres lorsque ceux-ci vinrent à Vienne. Crois-moi, je jouais en désespéré. Les variations firent cependant un tel effet qu'applaudis après chacune d'elles, je dus paraître sur la scène lorsque je les eus terminées. L'intermède fut chanté par Mademoiselle Veltheim, cantatrice à la cour du roi de Saxe. Enfin, arriva le moment de l'improvisation, je ne sais comment cela se fit, mais je m'en tirai de telle façon que l'orchestre se mit à applaudir, et lorsque je finis, je fus de nouveau rappelé sur la scène. Ainsi se termina le premier concert. Je fus abondamment loué par la pièce viennoise. Alors c'est là, on se demande s'il se prend vraiment au sérieux ou pas. Vous voyez, il y a tout le temps cet équivoque chez Chopin qui rend les choses très très sympathiques parce qu'on vit avec lui ce concert, tous les petits déboires qu'il a eus, et c'est merveilleux.
Et d'ailleurs, rappelons que lors du deuxième concert, l'orchestre a réussi à jouer totalement le rondo, dont nous allons tout de suite écouter un extrait. Alors parlez-nous un petit peu des derniers jours à Varsovie.
Là, on va commencer à vivre un des moments assez dramatiques de la vie de Chopin.
Dramatique dans quel sens ?
Dramatique parce qu'il sent qu'il faut qu'il s'arrache à la Pologne, à Varsovie, à sa famille et tout. Et il hésite, il n'y arrive pas bien. Alors voilà une lettre qu'il adresse encore à l'éternel Titus, son cher ami. Le samedi 4 septembre 1830, il a 20 ans. « Mon bien cher Titus, si je m'en vais, je ne reverrai plus la maison, me semble-t-il. » Je pense que je mourrai au loin. Et comme il doit être triste de mourir ailleurs qu'où l'on a vécu, il me serait affreux de voir auprès de mon lit de mort, non les miens, mais un médecin compassé et un domestique. Crois-moi, j'ai souhaité plus d'une fois aller pour chercher le calme auprès de toi. Au lieu de cela, je sors de la maison, je vais dans la rue, je suis pris par la nostalgie et je rentre à quoi bon ? Pour languir. Je n'ai pas encore essayé le concerto, quoi qu'il en soit. C'est le deuxième concerto, hein. Quoi qu'il en soit, j'abandonnerai tous mes trésors avant la Saint-Michel et je me trouverai à Vienne condamné à soupirer éternellement. Qu'est-ce que c'est donc que cette perte de la notion du temps ? Toi qui connais si bien la nature humaine, explique-moi pourquoi il me semble toujours qu'aujourd'hui, ce sera seulement demain. Autre lettre écrite quelques jours plus tard à Titus, toujours le 18 septembre 1830. « Mon bien-aimé, je ne sais pourquoi, mais je me sens bien. » Mon père et ma mère en sont fort heureux. Mercredi dernier, j'ai essayé mon concerto accompagné par le quatuor. J'étais assez content, mais pas trop. Les gens trouvent le dernier final, la plus jolie des parties, bien sûr, puisque c'est la plus facile à comprendre. Quel effet cela fera-t-il à l'orchestre ? Je vais l'essayer mercredi et je t'en donnerai des nouvelles. Demain, je jouerai encore une fois avec le quatuor, et quand tous ces essais seront terminés, je m'en irai. Mais où ? Puisque rien ne m'attire nulle part. Je n'ai cependant pas l'intention de rester à Varsovie. Si tu t'imagines, comme tant d'autres, que c'est une intrigue amoureuse qui me retient, rejette cette pensée. Sois convaincu que je saurai rester maître de moi-même chaque fois qu'il s'agira de moi. Et si j'étais amoureux, j'arriverai à dissimuler pendant quelques années encore une ardeur malheureusement impossible à déclarer à présent. Alors, l'ardeur impossible à déclarer, c'est évidemment Constance. Mais vous voyez, il y a toujours cette dualité entre l'amour idéal pour Constance et puis toutes les petites jeunes femmes qui fréquentent.
Il est resté fidèle à Constance.
Ah ben ça, vous allez le voir après. Il ne faut pas tout dévoiler maintenant.
Je ne dévoile pas tout. Alors, l'ardeur en question, c'est bien sûr Constance à qui il n'a toujours pas avoué son amour. Le 11 octobre, Chopin donne un concert au cours duquel chante celle qui l'appelle Mademoiselle Gladowska, qui n'est autre que Constance. Il décrit ce concert dans sa dernière lettre avec son nouveau départ pour Vienne 15 jours après.
Absolument. Et il semble qu'il dissocie complètement cette Mademoiselle Gladowska chanteuse de Constance qui est son amour idéal et c'est pourtant la même personne. Alors donc, lettre à Titus le 12 octobre 1830, c'est-à-dire le lendemain du concert. « Mon bien-aimé, mon concert a bien réussi hier. Je me dépêche de t'envoyer la nouvelle et je vous annonce, monsieur, que je n'ai pas eu du tout le trac. J'ai joué comme si j'avais été tout seul. Tout fut bien. La salle était pleine. On commença par la symphonie de Görner. Ensuite, Sa Majesté, c'est-à-dire moi, joua l'Allegro en mi mineur, qui marcha tout seul, à ce qu'il paraît, sur le piano Streicher. Bravo assourdissant. Soliva était content. C'est lui qui dirigeait, à cause de l'air, avec cœur de Mademoiselle Volkoff, habillée de bleu comme un petit ange, qui chanta fort joliment. Ce fut ensuite autour de l'Adagio et du Rondo. Vous voyez qu'il reprend toujours les mêmes œuvres dans ses concerts. Puis, la pause qui sépara la première de la seconde partie. Lorsque tout le monde fut revenu du buffet et redescendu sur la scène où j'en étais monté me rendre compte du bon effet produit, la deuxième partie commença par l'ouverture de Guillaume Tell. Soliva la dirigea bien. Il dirigea ensuite l'air de Mademoiselle Gladowska, habillée tout de blanc, la tête couronnée de roses, ce qui lui allait admirablement bien. Elle chanta la cavatine de la Donna del Lago avec récitatif de telle façon qu'elle n'avait jamais chanté ainsi. Tu connais cela ? « O quante lacrime per te Versailles ?» Elle a dit le tutto detesto jusqu'au si bas tellement bien que Zelensky a affirmé que, à lui seul, ce si valait 1000 ducats. Après avoir reconduit Mademoiselle Gladowska de la scène, nous nous mîmes au pot pourri sur le thème de la lune se lève, etc. Cette fois, je me compris moi-même, l'orchestre se comprit et le parterre s'y reconnut. Le public a attendu la fin du dernier mazour pour éclater en applaudissements nourris. Je fus rappelé ensuite, ce sont les facéties accoutumées. Alors, ce que je trouve extraordinaire dans cette lettre, c'est que c'est cette phrase « Je me compris moi-même », L'orchestre se comprit et le parterre s'y reconnut. Vous qui êtes pianiste, ça doit tellement vous rappeler qu'il y a certains moments, il y a une sorte de communion avec la salle, de communion de tout le monde, que je trouve, que, en quelques mots, admirablement dit.
C'est tout à fait admirablement dit. Et donc, maintenant, nous allons passer au début du voyage.
À Vienne.
Il passe donc 8 mois à Vienne. Son ami Titus, qui est avec lui au début, s'en va rejoindre la Pologne, lui reste seul. Il pense à Constance. Voici donc la lettre qu'il écrit alors à son ami Jean Matuszynski.
Vienne, le jour de Noël, dimanche matin. L'année dernière, à la même heure, j'étais chez les Bernardins. Les Bernardins, c'est l'endroit où jouait de l'orgue. Aujourd'hui, je suis seul. Je t'écris en robe de chambre tout en mordillant mon anneau. Si ce n'était à présent, je serais peut-être un fardeau pour mon père et je rentrerais immédiatement à Varsovie. Je maudis l'instant de mon départ. Au moment de ma situation, comme tu l'es, tu avoueras que trop de tourments se sont abattus sur moi depuis le retour de Titus en Pologne. Tous les concerts, les dîners, les soirées, les danses dont j'ai par-dessus la tête m'ennuient. Tout ici pour moi est si triste, si sombre et si morne. J'aime tout cela, mais pas sans ces circonstances si cruelles. Je ne puis rien faire de ce que je voudrais. Il me faut m'habiller, me friser, me chausser. Dans les salons, je semble calme, mais rentré chez moi, je fulmine sur le piano. Sans intimité avec personne, je dois me montrer aimable avec tout le monde. Il y a des gens qui m'aiment, font mon portrait, m'accablent de prévenance et de grâce. Mais peu m'importe, puisque je me sens inquiet. Je le suis moins seulement quand je sors toutes vos lettres, lorsque j'ouvre la vue du roi Sigismond. Le roi Sigismond, c'est une statue qui se trouve à Varsovie, et que je regarde l'anneau. Ces plaintes, pardonnez-moi, Jeannot, mais à présent, ma peine me semble allégée de moitié, je suis plus calme. J'ai toujours partagé mes sentiments avec toi. As-tu reçu ma carte? Certainement, ce que je t'écris ne t'est rien, car tu es chez toi, tu es à la maison, mais moi, je lis et je relis ta lettre. Et Freyer m'a raconté beaucoup de détails intéressants sur ces derniers temps. Il a pris connaissance de ta lettre avec grand plaisir. Je la lui ai laissée lire jusqu'à un certain passage. Ce certain passage m'a beaucoup attristé. Ce certain passage, c'est un passage où il va faire allusion à Constance. Y a-t-il vraiment si peu de changements? N'a-t-on pas été malade? On, c'est Constance, bien sûr. Je supposerais facilement quelque chose de ce genre de la part d'un être si sensible. Mais te le semble-t-il, peut-être, est-ce à cause de la secousse du 29? La secousse du 29, c'est la répression de l'insurrection de Varsovie. Car Dieu me garde que ce soit ma faute. Tranquillise-la. Dis-lui qu'aussi longtemps qu'il me restera des forces, que même après la mort, mes cendres se déposeront sous ses pieds. Mais tout ce que tu pourrais dire est trop peu de choses. Je vais lui écrire. Je lui aurais déjà écrit depuis longtemps et je ne me serais pas tourmenté de la sorte, mais les gens, si par hasard ma lettre tombait en des mains étrangères, cela pourrait nuire à sa réputation. Alors, il vaut mieux que tu sois mon interprète. Parle pour moi et j'en conviendrai. Les mots que tu as écrits en français ont achevé de me ravir. Un Allemand qui me suivait dans la rue, tandis que je lisais ta lettre, eut peine à me soutenir en me tenant par le bras. Il ne pouvait se rendre compte de ce qui m'arrivait. J'avais envie d'arrêter tous les passants, de les embrasser. J'avais l'âme en fête comme jamais, car c'était la première lettre de toi. Je t'ennuie, Jeannot, par ma frénésie stupide, mais il m'est difficile de revenir à moi et de t'écrire des choses indifférentes. Avant-hier, j'ai dîné chez certaines dames polonaises, appelées Bayer, et de son prénom Constance. J'aime me trouver là par réminiscence. Tous les cahiers de musique, les mouchoirs, les serviettes portent son initiale. Alors c'est là que je vous disais tout à l'heure, quand il voit un mouchoir, il pense à Constance. J'y vais avec Slavik, pour qui elle a un certain penchant. Avant-hier, nous avons joué chez cette dame pendant toute la matinée, puis durant tout l'après-midi. C'est la veille de Noël, le temps était beau, une atmosphère de printemps. Quand nous sommes sortis de chez Bayer, la nuit était tombée. Après avoir dit adieu à Slavik, qui était attendu à la chapelle impériale, je me suis rendu à minuit, seul, à Palan, à la cathédrale Saint-Étienne. Lorsque j'y arrivais, il n'y avait encore personne. Non par dévotion, mais pour contempler à cette heure cet immense vaisseau. Je restais debout, au pied d'un pilier gothique, dans le coin le plus sombre. Impossible de décrire la magnificence et la grandeur de ces voûtes immenses. Le silence régnait. Seuls les pas d'un sacristain allumant des cierges au fond de l'église rompaient parfois ma léthargie. Derrière moi, un tombeau. Sous mes pieds, un tombeau. Il n'en manquait un qu'au-dessus de ma tête. Une harmonie lugubre s'éleva en moi. Plus que jamais, je ressentis ma solitude. Je m'approuvais avec délice à la source d'émotion qui était pour moi cette vision grandiose, jusqu'au moment où hommes et lumières se mirent à affluer. Alors, relevant le collet de mon manteau, comme parfois au faubourg de Cracovie, tu te souviens, je pris le chemin de la chapelle impériale pour y entendre de la musique. À pied, je traversais les plus belles rues de Vienne. mais je n'étais déjà plus seul. Une foule joyeuse m'entourait. Je gagnais ainsi le château, où après avoir entendu trois pièces, fragments d'une messe pas fameuse et jouées soporifiquement, je rentrais, passer 1 heure du matin pour me coucher. Il a des vrais talents littéraires.
Donc ces impressions sont vraiment saisissantes pour un jeune homme qui vit seul à Vienne. D'ailleurs, pendant son séjour, il compose beaucoup et il a beaucoup de doutes. Ce qu'il ressent s'exprime peut-être à travers des œuvres comme ce Scherzo numéro 1 que nous allons tout de suite écouter. Chopin quitte Vienne, il réussit à avoir un passeport pour Londres avec le vague projet de passer par Paris, et il passe par Munich et Stuttgart. C'est là qu'il va vivre des heures dramatiques, alors dites-nous-en un petit peu plus à travers ses lettres.
Oui, alors il semble qu'à Stuttgart, il ait vécu des heures particulièrement dramatiques, et il nous a laissé un document qui s'appelle le journal de Stuttgart, que je vais essayer de vous lire, mais c'est tellement émouvant et tellement dur et tellement frappant que j'espère que je vais aller jusqu'au bout de ma lecture. Stuttgart, chose étrange, ce lit où je vais me coucher a peut-être servi à plus d'un mourant, et cette pensée ne me donne aujourd'hui aucun dégoût. Peut-être plus d'un cadavre y a-t-il reposé, et reposé longuement. Mais en quoi un cadavre est-il moins que moi? Un cadavre ne sait rien, lui non plus, de son père, ni de sa mère, ni de ses sœurs, ni de Titus. Un cadavre non plus n'a pas de bien-aimé. Il ne peut parler à ceux qui l'entourent en son langage. Un cadavre est pâle, comme moi, il est aussi froid que je le suis à présent en face de tout. Un cadavre a cessé de vivre, et moi aussi j'ai vécu jusqu'à satiété. À satiété, un cadavre est-il rassasié de la vie? S'il l'était, il aurait bonne mine, et il est si misérable. La vie a-t-elle donc une influence si grande sur les traits, sur l'expression de la face, sur la physionomie de l'homme? Pourquoi vivons-nous une vie aussi misérable qui nous dévore et ne sert qu'à faire de nous des cadavres? Une heure de la nuit sonne aux horloges des tours de Stuttgart. Ah! Combien meurent-ils d'humains cet instant de par le monde? Des enfants perdent leur mère, des mères perdent leurs enfants. Combien de plans s'anéantissent? Que de tristesses surgissent de ces trépas et combien de consolations aussi? Combien de tuteurs malhonnêtes et d'êtres opprimés meurent? Le méchant et le bon sont morts, la vertu et le crime de même, tous nos frères dans la mort. On voit que la mort est le meilleur des actes. Quel est donc le pire, la naissance? Puisque c'est le contraire du meilleur des actes. J'ai donc raison de déplorer d'être revenu sur terre. Pourquoi ne m'a-t-il pas été permis de n'y pas venir, puisque j'y suis inactif, Mon existence, à quoi sert-elle? Je ne suis bon à rien parmi les hommes, je n'ai pas de mollets ni de gueules. Et même si je les avais, qu'aurais-je de plus? Serais-je mieux avec des mollets? Mais il faut les avoir. Un cadavre a-t-il des mollets? Un cadavre n'en a pas plus que moi, une ressemblance de plus. Alors il ne me manque pas beaucoup pour fraterniser mathématiquement avec la mort. Aujourd'hui, je ne la désire pas, à moins que vous soyez malheureuses, mes enfants, et que vous aussi ne souhaitiez rien de mieux que la mort. Sinon, je désire encore vous revoir, non pas pour mon bonheur direct, mais pour mon bonheur indirect, car je sais combien vous m'aimez. Mais elle, c'est Constance, a-t-elle simulé qu'elle m'aimait? C'est une énigme à deviner. Oui, non, oui, oui, non, oui, non, oui, oui, un doigt sur l'autre, il glissa. M'aime-t-elle sûrement? Qu'elle fasse ce qu'elle veut aujourd'hui, j'ai un sentiment plus haut, beaucoup plus haut que la curiosité dans l'âme. On peut garder une bonne mémoire. Père, mère, enfant, tout ce qui m'est le plus cher, où êtes-vous mort? Peut-être le moscovite m'a-t-il fait un sinistre tour? Oh, attends, attends, serait-ce des larmes? Il y a si longtemps qu'elles n'ont plus jailli de mes yeux. Pourquoi une tristesse sèche m'avait envahi depuis si longtemps? Il m'a été impossible de pleurer depuis tant de jours. Quel est ce sentiment bon et nostalgique? Il n'est pas bon de se laisser aller à la nostalgie, cependant c'est agréable. C'est un état étrange. Mais le mort aussi, il se sent bien et mal à la fois. Il passe dans une vie plus heureuse et il s'en trouve bien, mais il regrette le passé. Il en devient nostalgique. Le mort doit se sentir comme moi lorsque j'ai eu fini de pleurer. Ce fut sans doute une sorte de mort momentanée de mes sentiments. Un instant, je mourus pour mon cœur. Ou plutôt, pour un moment, mon cœur mourut pour moi. Pourquoi pas pour toujours? Peut-être me serais-je plus supportable. Seul, seul, ah, que l'on ne peut décrire ma misère. C'est à peine si mes facultés de sentir peuvent la supporter. C'est à peine si mon cœur ne crève pas de la joie et des grands agréments qu'il a eus pendant cette année. Mon passeport sera périmé le mois prochain et je ne pourrai plus vivre à l'étranger. Du moins, je ne pourrai plus officiellement. Alors je serai encore davantage semblable à un mort. Et le surlendemain, voilà ce qu'il écrit. Il a appris la répression par les Russes de l'insurrection de Varsovie. J'ai écrit les pages précédentes sans savoir que l'ennemi était dans la maison. Les faubourgs sont détruits, incendiés. Jeannot, sans doute, Vilus est-il mort sur les remparts? Je vois Marcel en captivité, Sovinsky se brave aux mains de ses coquins. Oh Dieu, existes-tu? Oui, tu existes et tu ne nous venges pas. N'y a-t-il pas encore assez de crimes moscovites? Où es-tu, moscovite, toi-même, mon pauvre père? Peut-être a-t-il faim, peut-être n'a-t-il pas de quoi acheter du pain pour ma mère? Mes sœurs ont peut-être été victimes de la rage de la soldatesque moscovite déchaînée. Ce chien s'embarre de la résidence des premiers monarques de l'Europe, ce moscovite seigneur du monde. Oh, mon père, ce sont les agréments de ta vieillesse. Mère, tendre mère douloureuse, tu as survécu à ta fille pour voir le moscovite foulé aux pieds de ses ossements. Ah, Povansky, ont-ils respecté sa tombe et les piétinés et 1000 autres cadavres la recours? Ils ont brûlé la ville. Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas été donné de tuer au moins de ces moscovites? Oh, Titus, Titus! En parlant de Constance, qu'est-elle devenue? Où est-elle, la pauvre? Peut-être est-elle aux mains des moscovites. Un moscovite la presse, l'étrangle, l'assassine, la tue. Ah, ma bien-aimée, je suis seule ici. Viens auprès de moi, que j'essuie tes larmes, je calmerai tes blessures du présent en te rappelant le passé. Le temps où il n'y avait pas encore de moscovites alors, cependant, quelques moscovites voulaient à toute force te plaire et tu te raillais d'eux parce que moi, j'étais là. Tu as une mère et une mère si méchante et moi, j'en ai une si bonne. Mais peut-être n'ai-je plus de mère, peut-être un moscovite l'a-t-il tué, assassiné. Mes sœurs affolées ne se laissent pas faire. Mon père, plein de désespoir, ne sait que devenir. Il n'y a personne pour relever ma mère et moi je suis inactif ici et moi les mains vides. Ici je soupire seulement de temps en temps. J'épanche mon désespoir sur le piano. À quoi cela sert-il? Dieu, Dieu, mon Dieu, ébranle la terre, qu'elle dévore les hommes de ce siècle et que les tortures les plus cruelles tourmentent ceux qui ne nous ont pas secourus.
Cette lettre est vraiment très dramatique. On ressent cette souffrance de revenir dans la ville où vivent ses parents. D'ailleurs, il y a une étude, la fameuse révolutionnaire au piano, qui a été composée à Stuttgart.
C'est ce qu'on dit, oui.
Donc nous allons tout de suite en écouter un petit extrait.
Thank you.
que va faire Frédéric Chopin après son départ à Stuttgart, c'est ce que nous verrons dans notre prochaine émission avec son ascension à Paris. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission en hommage au bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin. Si une œuvre vous a plu et que vous n'avez pas eu le temps de noter sa référence, n'hésitez pas à nous écrire à communication@canalacademy.com ou bien la retrouver en bas du texte joint à l'émission. Je vous rappelle que cette émission est téléchargeable gratuitement sur le site de Canal Academy. Merci pour votre écoute et rendez-vous donc pour notre prochaine émission sur Frédéric Chopin. Merci Monsieur Grévois.
Mais je vous en prie.